With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro avec l'excellent Olivier Canton. Salut Olivier.
Salut Raphaël, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Poulain Rafut, podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas évidemment à le noter avec un maximum d'étoiles, sous peine de recevoir une manchette samoane de notre présentateur vedette. Allez, parle-nous de notre invité. Qui est notre invité aujourd'hui ?
Faudrait pas que je me pète quand même sur la manchette samoane. Oui Olivier, écoute, 2007 était une superbe année pour moi. J'ai fait des rencontres absolument géniales. D'ailleurs, c'est en partie après une discussion avec Bibi Radu croisée dans la salle de muscu du Stade Français. C'était assez rare quand même à l'époque de croiser David Oradou dans une salle de muscu. Alors qu'il effectue un abdo dégueulasse suivi d'un mauvais quart de squat, Bibi me raconte qu'il signe au Racing l'année d'après et qu'il y a un gros projet avec des moyens, une envie de club de remonter en top 14 rapidement. Sentant de mon côté ma carrière de comédien un peu bancale, avec pour seul casting des mauvaises pubs pour une marque de slip ou une pub pour Coca-Light, alors qu'avec 100 kilos, ça n'a aucun sens. Bref, je rencontre 2 mois plus tard Pierre Berbizier, au mois d'août 2007, qui me fait confiance et me voilà parti pour relancer ma carrière avec les Michel Diodet, Paul Lossuc, David Girard, Augustine Pichot, Thomas Lombard, Ludo Valbon et autres Greg Coudol, ainsi que quelques jeunes issus de la formation, Di Martino, Thomas Durieux. Et au milieu de cette constellation de mecs venus de partout, il y avait ce jeune premier, sage, besogneux, qui discrètement mais sûrement grappille cette année-là quelques feuilles de match. Alors, je vais faire couiner les aficionados de la stat et les fans de belles histoires de héros, et j'en suis navré d'avance, mais Henri Chavancy, mesdames et messieurs, a commencé le rugby non pas à Paris, mais à Nîmes, à 9 ans. Et non, il n'est pas né dans une serviette bleu clair et blanche, c'est bien dans le Gard qu'il débute sa passion, avant d'arriver à Paris à l'âge de 11 ans pour ne plus quitter les couleurs de son club de cœur, le Racing 92. Avant de parler de son palmarès, je voulais te dire, Henri, qu'on avait un point commun. Henri, au-delà d'aimer nos potes du rugby et d'avoir partagé ta première année en pro, c'est qu'on a tous les deux fait l'école de management Léonard de Vinci à Paris. Sauf que toi, tu y es resté 4 ans et moi, j'y suis resté 4 jours. Et on ne le dira jamais assez, d'ailleurs, dans Poulain Rafut, l'importance d'avoir un bagage pour anticiper l'après. Henri, c'est 15 ans de carrière au plus haut niveau. Équipe de France, moins de 20 ans. França, équipe de France aussi. Et Barbarians, bien entendu. Champion de France de Pro D2 en 2009 avec le Racing. Champion de France 2007, 3 fois finaliste de la Coupe d'Europe. Il gravit les échelons. Posément, intelligemment, tout au long de son parcours pour devenir un capitaine à l'image de son club, le Racing 92. C'est vrai que, quand on y pense, chaque capitaine colle à l'ADN de son club. Et bien, Henri, c'est exactement l'image qu'on se fait du Racing 92 ces dernières années. Régularité, discipline, exemplarité, engagement, avec bien sûr au milieu l'amitié et un peu de bonne connerie pour que la mayonnaise prenne bien. Il y a quelque chose d'atypique dans ce club et son histoire. Un truc qui attaque, qui attache, qui accroche et qui ne laisse pas indifférent. Est-ce que ça vient de son histoire, de ses couleurs, de sa géographie, de son stade, que dis-je, de son arénant ? Il y a quelque chose de précurseur, d'avant-gardiste, qui à la fois intrigue, détonne et dérange, mais je ne pourrais pas expliquer quoi en particulier. Bref, qui de mieux que l'enfant de ce club pour venir nous parler de son président, de son histoire, de ses figures emblématiques, comme les Chabal, Mertens, Sarzeski, Fiol, Carter, dont il a été parrain à son arrivée ? Qui de mieux qu'Henri Chavancy pour nous parler de son Racing 92 ? Merci d'être avec nous dans Poulain Rafut. Salut Henri !
Salut à tous, merci Raphaël pour... Cette jolie petite présentation, c'est sympa.
Écoute, j'ai essayé que ça colle un petit peu au personnage que tu peux représenter aussi pour le Racing. Voilà, comme je disais, capitaine emblématique, tu l'as d'ailleurs été pour la première fois en 2012. Mais avant de rentrer un peu dans les détails du pourquoi, du comment, on vient quand même prendre des nouvelles parce qu'on a vu que ce week-end, tu es sorti après 25 minutes face à Édimbourg avec l'épaule plus que douloureuse. Donc, est-ce que c'est saison terminée ? Comment tu vas là maintenant, tout de suite Et est-ce que la saison, oui, pour toi, est terminée ?
Ben écoute, ça va. Ouais, je me suis luxé l'épaule, malheureusement, ce week-end contre Édimbourg. Donc, voilà, j'ai vu quelques spécialistes et je refais un point dans 3 semaines maintenant pour savoir la suite à donner à cette blessure, savoir si j'aurai une opération ou pas. Donc, voilà, je vais patienter un petit peu et voir comment évolue justement cette blessure.
Henri, il y a eu une image saisissante pendant ce match lors de votre blessure, puisque vous êtes resté de longues minutes au sol. Tout le monde a été très inquiet. On a vu le président, Jacky Lorenzetti, qui est allé vous voir jusque dans l'Ambu pour prendre de vos nouvelles. C'est dire quand même ce que vous représentez pour le club, pour le président. Vous avez conscience quand même de ça ?
C'est vrai que c'était une scène un peu cocasse. Je voyais le médecin du club qui essayait de me remettre l'épaule en place et là, je vois Jacky qui vient me tapoter la tête en me disant que ça va aller. Donc, non, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect et d'attache avec Jacky. On se connaît, comme l'a dit Raphaël, depuis longtemps. Et c'est vrai que je pense qu'il était inquiet pour moi. Donc, voilà, ça m'a touché et ça m'a fait plaisir qu'il vienne prendre de mes nouvelles.
Raph, dans ta présentation d'Henri, tu disais qu'il représentait le Racing. C'est vrai que c'est Henri Chavancy, c'est vraiment l'image, c'est l'âme de ce club, comme Pierre Rabadan au Stade Français, comme Rougerie à Clermont. Hein, c'est vraiment ça, Raph.
Oui, oui. Et puis, je pense qu'il y a des… on dit que les mentalités changent, les mentalités évoluent, mais on a besoin d'avoir, comme je le dis, quand on a 20 ans, 22 ans, 25 ans, d'avoir des figures tutélaires. Alors, je pense que Henri en avait, parce qu'il connaissait le Racing, mais qu'il a vu aussi en 2007 tous ces mecs venir jouer pour pouvoir monter en top 14. Mais il est issu d'un club, même si je rigolais en parlant de Nîmes, mais comme Pierre qui a rêvé d'être, je le disais, footballeur à Marseille et qui est rugbyman à Paris, qui a fait 17 ans de carrière au Stade Français, qui a 5 titres, comme Aurélien Rougerie. Voilà, c'est des mecs qui sont fidèles à leur couleur. Et puis Henri, il colle tellement bien à ce club. Moi, je l'ai dit, hein, il faudra de toute façon avoir, le jour où il arrêtera sa carrière, une statue à la Thierry Henry qui a marqué Arsenal. Il faudra, mais comme Aurélien Rougerie a sa statue, comme Pierre devrait avoir sa statue à Jean Bouin. Henri, mais alors on en rigole, mais on a besoin d'avoir ça. On a besoin d'avoir des référents, des mecs avec. On parle des grandes valeurs du rugby, bien sûr, mais ce mec les incarne, c'est tout. Et je t'en avais parlé il y a 6 mois, il y a un an, Henri, en t'envoyant 2-3 textos, justement, je sais plus pourquoi, mais ouais, tu mérites d'avoir la statue parce que c'est. Alors je sais que tu me diras oui, c'est l'équipe, oui, c'est le Racing, c'est toute l'histoire, bien sûr. Mais on a besoin d'avoir des mecs comme ça. On a besoin d'avoir des mecs qui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Henri, mais on a besoin d'avoir des mecs qui marquent les clubs justement pour écrire l'histoire. Il y a les 90, c'était l'épopée des nœuds papillons, du rose, de la guille et tout ça. Mais force est de constater que depuis 2007, 14 ans de carrière dans le même club, et je pense que tu termineras dans ce club, j'imagine.
J'espère, oui, j'espère. Bah, c'est vrai que déjà, j'ai la chance d'être dans un club avec énormément d'histoire. Tu en as parlé. Je crois qu'il y a eu des épisodes aussi, évidemment, glorieux dans le passé. Et voilà, le club était un petit peu dans le creux de la vague. Et avec l'aide de joueurs de renom, dont tu faisais partie, Raphaël, voilà, on a réussi à remonter en top 14 et à marquer aussi l'histoire de ces, je dirais, 10 dernières années en top 14. On a réussi à se qualifier tous les ans, à remporter ce titre en 2016 et à, voilà, à batailler aussi en Coupe d'Europe pour essayer d'aller chercher ce titre qui nous manque. Donc voilà, c'est vrai que je fais partie de cette génération qui a fait remonter le club en top 14 et qui essaie, tant bien que mal, de gagner le plus de titres possible pour marquer l'histoire du club.
Alors c'est sympa juste de me mettre dans la boucle des mecs qui ont marqué l'histoire, mais quand même cette année-là, 2007-2008, pour les personnes qui ne le savent pas, ils sont nombreuses, hein, j'avais pas fait un match de l'année, j'arrête en 2008 sur ce titre loupé, ma 7e finale loupée dans ma carrière, ce fameux match que l'on perd contre Mont-de-Marsan. Juste avant, Olivier, je voulais savoir, Henri, ce club, il est atypique. Ce club, il détonne. Alors, au-delà de. Alors, j'ai joué au stade avec Max Godini, mais voilà, tu as quand même un mec comme Jacky Lorenzetti qui a mis énormément de moyens dans ce club, qui a l'Arena, justement. Donc, c'est un cap qui a franchi. Tu avais Max, on l'a dit, qui a popularisé le rugby, mais là, on franchit un cap sur le divertissement. Mais il y a cette image un peu atypique, j'en parlais dans le portrait que je t'ai dressé, cette image atypique du Racing qui détonne. Comment tu la définirais, toi, de l'intérieur et. Comment tu vois justement les gens qui voient le Racing de l'extérieur et qui ne sont pas obligatoirement supporters du Racing, mais il y a quelque chose qui détonne dans ce club.
Ouais, je sais pas. C'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas forcément une image très positive il y a quelques années du Racing. Je sais pas, bon, c'est difficile d'être objectif de l'intérieur, mais je pense qu'il y a 10-15 ans, on avait un petit peu une image de l'équipe de mercenaires, je ne sais pas, il y avait énormément de joueurs qui venaient d'horizons différents, que ce soit de France, mais aussi de l'étranger. Donc, il n'y avait pas forcément une très bonne image, peut-être une image d'un club avec beaucoup d'argent qui veut brûler les étapes. Voilà, alors qu'au contraire, je pense que Jacky Vanzetti a fait les choses dans l'ordre. Il a été plutôt patient, même s'il a mis énormément d'investissements pour faire remonter le club. Voilà, je crois qu'il a fait les choses dans l'ordre et on l'a vu. Je pense qu'à partir du moment où tu étais là, on parlait déjà de cette aréna et elle s'est concrétisée presque 10 ans plus tard. Donc voilà, je crois que tout n'a pas été si vite que ça. Et de plus en plus, j'ai l'impression que l'image se bonifie avec énormément aussi de joueurs issus du centre de formation qui arrivent à jouer en équipe première. Et je pense que voilà, l'image du Racing a changé aujourd'hui. Peut-être aussi les campagnes européennes qui ont fait briller la France, même si on n'a pas su aller chercher le titre. Mais voilà, peut-être qu'on a su aussi générer tout le monde autour de nous pour ces campagnes-là. Et je me trompe peut-être, mais je pense que l'image est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années.
Non, mais c'est exactement ça, parce que moi, je travaille dans les médias depuis pas mal de temps, et c'est vrai qu'on avait coutume souvent de comparer les méchants du Racing avec les gentils du Stade français. Et Henri a totalement raison. C'est vrai que depuis quelques années, on voit que cette image a changé et qu'elle est maintenant très forte de manière positive. D'ailleurs, le Racing a, désolé, Raph, on s'en met à surclasser désormais le Stade français. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans le podcast.
Je vais vous laisser, non, mais je vais vous laisser.
Non, mais c'est vrai, il a raison, puisque vous parliez de Coupe d'Europe. Bon, malheureusement, vous ne serez pas là la semaine prochaine pour le quart de finale contre Bordeaux. Visiblement, donc la saison est terminée pour vous. Votre avis quand même sur ce match qui attend vos équipiers, est-ce que vous allez les voir, est-ce que vous allez quand même les soutenir, leur parler de ce match qui sera un gros test face à Bordeaux, qui va disputer son premier quart de finale à ce niveau de la compétition. L'expérience, c'est ce qui fait la différence en Coupe d'Europe, c'est ce qui peut faire la différence.
L'avenir nous le dira, j'espère, parce que on a, c'est vrai, plus d'expérience que Bordeaux dans cette compétition, mais voilà, on l'a vu le week-end dernier contre Bristol, où ils ont fait un match très abouti et voilà, ce sera un match très difficile. On doit se déplacer en plus chez eux pour ce quart de finale, donc on sait que ça peut aussi faire la différence. Donc voilà, non, j'espère de tout cœur qu'on arrivera à passer cet obstacle-là, mais on sait que ce sera très difficile face à une équipe qui est décomplexée et qui n'aura aucune pression, je pense, sur les épaules.
Après, vous faites des bons coups quand même à l'extérieur, quoi. Voilà, cette année, ça marche plutôt bien. Bon, après, comme tu dis, c'est la Coupe d'Europe. C'est autre chose. Henri, vous avez perdu déjà trois finales, je l'ai dit, 2016 contre les Saracens, 2018 contre le Leinster, 2020 contre Exeter. Alors, deux questions en une. Quelle est la plus douloureuse pour toi? Et on sait, on dit souvent qu'on grandit aussi grâce à l'échec, mais là, ça fait trois presque d'affilée. Donc, qu'est-ce qu'on retient des échecs? Quel discours on a aussi? Je pense que tu seras la semaine prochaine et tu descendras à Bordeaux. Quel discours on peut avoir justement pour susciter encore l'intérêt d'aller toujours plus loin, toujours plus haut? Et est-ce que cette année, c'est la bonne? Alors, tu as quatre questions en une, tu te démerdes.
Je vais essayer de répondre à toutes. C'est forcément toujours d'immenses frustrations de perdre une finale de Coupe d'Europe. En 2016, je pense que c'est une défaite qui nous a pas fait tant de mal que ça, parce que je pense qu'on n'était peut-être pas prêt à être champion d'Europe. Les Saracens nous ont surclassé en finale, il n'y avait pas photo sur ce match-là. Et au contraire, ça a été un match qui nous a permis justement de prendre confiance en nous et d'aller chercher le titre quelques semaines plus tard en top 14. Donc je dirais que ça a été un mal pour un bien, cette défaite, et que ce n'est pas forcément une défaite qui nous a vraiment marqué ou traumatisé. Au contraire des deux autres, en 2018, où je pense que voilà, on avait tout pour être champion d'Europe cette année-là, et ça bascule vraiment sur des petits détails. Je crois qu'on perd 16-13, si mes souvenirs sont bons, face à une équipe du Leinster qui était en pleine bourre, mais qu'on avait dominé pendant 80% du match. Et je me souviens encore qu'à 5 minutes de la fin, on menait peut-être 13-10 et on a pris deux pénalités dans les 5 dernières minutes. Donc, c'était extrêmement, extrêmement frustrant. Mais si je dois retenir la plus frustrante, ce serait celle de 2020, celle qu'on a jouée en début de saison, où là vraiment on avait le sentiment que c'était notre moment. On avait vraiment tout mis de notre côté, on avait vraiment la sensation que on était à l'apogée entre guillemets de notre rugby. Et voilà, je crois qu'on a déjoué complètement pendant les 20 premières minutes et on n'a jamais su rattraper notre retard, même si ça s'est joué à rien et qu'encore une fois, dans les dernières secondes, on aurait pu prendre le score, mais on n'a pas réussi à le faire. Donc je pense que c'était la plus frustrante parce que c'est peut-être celle où on a effleuré la coupe du plus près. Donc voilà, après. Malgré ça, du coup, on connaît le chemin, même si on n'a jamais réussi à gagner. On connaît le chemin, on sait que c'est très difficile, mais on sait qu'on est capable de le faire. Donc peut-être que c'est une expérience qui va nous servir pour cette saison. Espérons-le. Mais voilà, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que voilà, tout peut aller très vite. J'en suis la preuve vivante. Et que quand on a l'opportunité et l'occasion de jouer ces matchs-là, il faut croquer à pleines dents et ne pas avoir de regrets parce que bon, on a eu la chance d'en jouer trois, mais c'est extraordinaire. Et je pense que peut-être que certains joueurs de l'effectif, ce sera le premier quart de finale et peut-être le dernier. Donc voilà, ne pas avoir de regrets, jouer ce match à fond comme si c'était le dernier et croire en nos chances et en notre possibilité d'être champion d'Europe parce qu'il faut absolument nous en croire capables pour le réaliser.
On sent que la Coupe d'Europe, c'est une obsession hein, quand même pour le club et pour votre président aussi. Hein.
Une obsession, oui et non. On a évidemment aussi envie d'être champion de France, mais voilà, ce titre, on tourne autour depuis tellement longtemps. On a travaillé tellement dur pour y arriver et malheureusement, il nous a échappé à trois reprises extrêmement, extrêmement près. Je crois que on m'avait donné la stat que sur les 8 dernières années, on avait fait 7 fois les phases finales. Donc, ça prouve qu'on est très régulier et que, voilà, je dirais pas qu'on mériterait parce que, voilà, il faut aller le chercher. Mais en tout cas, on a vraiment envie d'enfin apporter ce titre au club et aussi au président qui travaille énormément pour justement nous donner les possibilités de gagner ce titre.
Il faudrait pas devenir la SM du nord de la France, hein? Même si, mais oui, mais eux aussi en Coupe d'Europe aussi ont eu du mal aussi à chercher, ils n'ont jamais eu, même s'ils ont eu la, je l'appelle toujours la Tourtel Cup, c'est la petite Coupe d'Europe, t'as la Heineken, voilà, c'est la Tourtel Cup. Bon, nous vous êtes sur la grande, on va revenir juste sur le derby dont Olivier vient de nous en parler il y a quelques minutes, c'est samedi 17 avril. Bon, vous avez certes 15 points d'avance, vous êtes devant, bien entendu, mais ça reste toujours un match à part, voilà, depuis ton retour, depuis ton arrivée en top 14, voilà, t'en as vécu. Des derbys, si on avait un à retenir, ce serait lequel. On rappelle que vous êtes sur une victoire encore à l'extérieur au Stade Jean Bouin, 27-25, avec un essai de pénalité à la dernière minute d'Antoine Gibert. S'il y avait un derby à retenir sur les 14 dernières années, tu retiendrais lequel, le plus chaud, le plus bouillant, ce serait où, à l'Arena, ce serait à Jean Bouin?
Tu le sais, Raphaël, un derby a toujours des histoires, donc ils sont tous marquants, c'est difficile d'en retenir. Si tu me permets, j'en retiendrai deux, comme ça, un positif, un négatif, comme ça, je ne ferai pas de jaloux. Positivement, je me souviens d'une victoire à Jean Bouin. C'était la première défaite du Stade français dans le nouveau Jean Bouin, donc c'était peut-être un peu marquant. Et c'est vrai qu'on avait vraiment à cœur tu connais la rivalité entre les deux clubs, de gagner là-bas. Et c'est vrai qu'on a été les premiers à le faire dans ce nouveau stade. Donc, c'était une grande satisfaction pour nous ce jour-là. Et mon pire souvenir, c'était l'année du titre du Stade français où, en barrage, on perd à Jean Bouin. Et là, on se fait rouler dessus. On se fait martyriser sur ce match-là. Il n'y a pas eu photo. Enfin, j'ai senti en tout cas que cette équipe du Stade français était prête à faire de belles choses et ils l'ont prouvé en étant champion de France.
Oui, et puis d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est aussi lors d'un derby où Sergio Parisse chope un carton rouge et à 14 contre 15, il gagne justement à Yves du Manoir.
À Colombes, je m'en souviens. Ouais. Mais tout ça, je t'ai dit, hein, tous les matchs, on peut parler aussi de celui, le dernier de Pascal Papé qui me met une pêche pleine poids pour finir sa carrière. C'était aussi un bon souvenir pour moi.
Pourquoi il vous avait mis une pêche d'ailleurs?
Bon, je pense
et il nous pleurait, non?
ouais, je pense qu'il me, il me visait pas personnellement. Il y avait un petit échauffouré et je suis arrivé pour séparer. Mauvais endroit, mauvais moment, je pense.
Vous êtes le capitaine de cette équipe. Vous rappelez l'importance de ce match à vos équipiers. Là, ce sera la reprise du championnat dans 15 jours. Vous leur dites quand même ce que ça représente pour vous, pour le club.
Oui, je pense qu'on est conscient. Tous les joueurs au Racing sont conscients que c'est un match particulier. Comme l'a dit Raph, il y a de l'écart au classement. Mais on est conscient que c'est un match à part et que d'autant plus qu'on a gagné à Jambouin au match aller, je pense que ils auront forcément à cœur de venir nous battre chez nous et c'est légitime. Donc voilà, à nous de préparer ce match comme il se doit. Stade français est toujours très bon chez nous, on le sait. Ils peuvent enchaîner 3-4 matchs médiocres, mais chez nous, ils sont toujours très forts. Donc on va s'attendre à ça et on va essayer de gagner parce que c'est important pour nous dans l'optique de la qualification, mais c'est aussi important pour nous dans la petite rivalité forcément qu'il y a entre les deux clubs.
Alors, pour être tout à fait précis, parce que Raphaël s'est un petit peu mélangé les crayons sur le score hein, au match aller, donc vous aviez gagné 27-25, vous aviez marqué un essai, et c'est une pénalité à la dernière seconde d'Antoine Gibert qui avait permis au Racing de s'imposer. Ce n'était pas un essai de pénalité, Raphaël.
Autant pour moi.
Précis. Ouais.
De toute façon, j'avais éteint dès que j'avais vu qu'il y avait. J'ai éteint, je suis allé faire un footing. Moi, je voulais juste parler quand même du personnage Jacky Lorenzetti, quand même. Alors, je fais juste une parenthèse avant de revenir sur le Racing et sur l'arrivée de Gaël Ficou. Mais juste avant, j'ai besoin de savoir comment tu définirais ce personnage, Jacky Lorenzetti, qui arrive, qui n'est pas un monde, ce n'est pas issu du monde du sport, hein, on rappelle, qui est créateur de Foncia, qui a cartonné et qui arrive en 2006, 2007, voilà, un petit peu comme, alors beaucoup plus discrètement quand même que Monsieur Boudjelal, bien entendu, mais il y a eu cette rivalité. On a l'impression que c'est un paratonnerre aussi, qui prend beaucoup aussi sur lui pour protéger ses ouailles. Comment tu le définirais, ce personnage qui est comme le Racing, quoi, qui est un peu. Je sais pas, je veux avoir ton point de vue aussi, qui est un peu le fils spirituel de Jacky Lorenzetti, quand même.
Je ne sais pas si je suis son fils spirituel, mais c'est vrai qu'on se connaît bien maintenant, après tout ce temps passé ensemble. Jacky, c'est quelqu'un déjà de passionné. Il est passionné du club. Au-delà d'être passionné de rugby, il est vraiment passionné du club. Il a appris à aimer ce club. C'est quelqu'un de déterminé qui voilà, met tout en place pour qu'on réussisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Il est toujours derrière nous. Il est capable de nous booster, de nous pousser quand ça ne va pas. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement discret, même si on le voit peut-être beaucoup parfois dans la presse ou dans le stade, etc. Mais c'est quelqu'un qui sait se mettre aussi en retrait et laisser travailler Laurent Travers et tous les entraîneurs. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui nous met une pression négative au quotidien, au contraire. Voilà, c'est quelqu'un qui met tout en place pour que voilà, on soit. Alors le confort, dans le confort, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas pour qu'on ait tous les outils pour pouvoir être performant. Et voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, de déterminé. Quand il a quelque chose en tête, bah, il fait tout pour y arriver. Et c'est quelque chose d'appréciable parce que bah, dans le sport de haut niveau, il nous faut autour de nous des personnes qui ont la niaque, qui ont envie de réussir. Et c'est vrai que c'est quelqu'un. Qui a eu des succès dans toute sa vie, que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du sport. Et il a envie de continuer, il a toujours cette même faim, cette même hargne pour gagner des titres et faire grandir le Racing. Donc voilà, je pense que bah, tu te souviens, Raph, où on était le club à ton arrivée. On arrivait à peu près en même temps en équipe première. C'était vraiment la renaissance un petit peu de ce club dans le milieu professionnel et ça on le doit à Jackie.
Ça vous étonne le décalage qu'il peut y avoir entre l'image qu'il donne à l'extérieur, quelqu'un dans les médias, quelqu'un d'un peu froid, d'un peu distant, et celui que vous connaissez, vous, en privé?
Non, ça ne m'étonne pas forcément parce que c'est pas quelqu'un qui aime forcément se mettre en avant donc. Peut-être qu'il peut paraître froid dans la presse, mais parce qu'il ne recherche pas forcément ça. C'est quelqu'un qui a des idées en tête et en place et qui ne se gêne pas pour les donner. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant On va pas l'entendre dans la presse toutes les semaines. Voilà, donc non, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement, encore une fois, bienveillant. Le mot famille pour lui, ça veut dire beaucoup. Alors, le Racing, c'est aussi une famille pour lui et on le ressent bien au centre d'entraînement. Je crois que on est dans un cocon et c'est lui le patriarche, on va dire.
Alors, parlons un petit peu de la suite pour vous, enfin du Racing et puis de la suite pour vous. Alors, le club a annoncé récemment la signature de Gaël Ficou pour la saison prochaine. Ficou à Katawa au centre, ce sera costaud comme concurrence pour vous.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, déjà, je suis ravi, hein, comme j'ai pu le dire, de l'arrivée de Gaël au Racing. Je crois que c'est un renfort de poids pour nous. C'est un joueur de grande qualité. C'est un mec super aussi, que j'ai la chance de connaître un peu. Donc, je suis ravi de l'accueillir au Racing. Et puis, forcément, ça va apporter de la concurrence supplémentaire. Il y en a déjà beaucoup parce que pas oublier qu'au Racing, on a des jeunes joueurs comme Olivier Clémensac et Dorian Laborde au centre qui sont d'excellents joueurs et qui nous poussent, moi, enfin, qui me poussent, moi, le vieux, à rester performant le plus possible si je veux continuer à jouer. Donc ouais, l'arrivée de Gaël va amener encore plus de concurrence, plus d'émulation. Mais voilà, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde, on l'a vu, et encore une fois, j'en suis la preuve, les championnats sont longs, c'est fatigant, c'est difficile sur toutes les compétitions, et plus on est à pouvoir aider le club à être performant, mieux c'est. Donc voilà, je vois cette arrivée d'un très bon œil, et je suis ravi qu'il ait choisi le voisin parisien pour venir l'an prochain.
Pour venir jouer à l'aile, voilà. Tu comptes plus de 300 matchs, 307 matchs avec le Racing. Tu as fait tes premiers pas, comme je le disais, en 2007, cette fameuse année qu'on aurait espéré, une année de montée. Est-ce que tu te rends compte quand même, tu mesures le chemin parcouru sur ces presque bientôt 15 ans de carrière, quoi, toi, le jeune premier qui débarquait dans cette équipe et qui aujourd'hui en est le capitaine. Est-ce que tu en rêvais? Est-ce que tu te rends compte un petit peu de ce que tu vis? C'est Benjamin Kaiser qui disait, putain, on n'a pas le temps en fait d'impacter sur une victoire, il faut penser au match d'après. Les choses ont évolué, le rugby a évolué, tu l'as vu évoluer ces 15 dernières années. Est-ce que tu te rends compte de ton chemin quand même, qui est quand même assez, assez exemplaire? On en parlait en off tout à l'heure, tu as eu rarement de blessures graves, on ne souhaite pas que celle-ci soit grave, tu as eu des petites déchirures, mais voilà, en 15 ans de carrière, tu as quand même fait 307 matchs. Je pense que Pierrot Rabadan, on était à 340 quand il arrête, donc... Tu t'approches des sommets, hein. Tu t'approches du soleil, donc c'est chouette.
Ouais. Ouais, je pense que j'en ai même fait un petit peu plus que 307 parce que c'était l'an dernier ma 300e, donc je dois être à 330 à peu près. Donc ça me rajeunit encore moins. Mais non, j'en rêvais pas parce que, encore une fois, moi, quand j'étais au Racing chez les jeunes, le Racing végétait dans le bas-fond de la Pro D2 et c'était un miracle année après année qu'ils arrivent à se maintenir. Donc, voilà, déjà, rendre hommage à tous ces joueurs qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens que nous on a aujourd'hui et qui se sont battus pour maintenir le club en Pro D2. C'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Et ouais, comme tu l'as dit, ça passe tellement vite que finalement, c'est difficile de se retourner un petit peu derrière soi. Ce que je peux dire, c'est que ça passe très, très vite et que je me souviens encore de nos entraînements à la Croix de Bernie ensemble, Raph, avec Pascal Vantini qui nous gueulait dessus pour qu'on court plus vite. Donc non, c'est 15 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier et voilà. En tout cas, j'ai essayé de toujours tout donner pour mon équipe, pour mon club, et j'essaierai de continuer à le faire encore jusqu'au bout. Et voilà, j'espère qu'à la fin, quand tout sera fini et que je raccrocherai définitivement les crampons, bah, je serai fier de ce que j'ai pu accomplir et que voilà, en tout cas, j'aurai passé de bons moments, un beau voyage, et ça, personne ne pourra me l'enlever.
Ah oui, parce que c'est pas fini, hein. Vous avez 32 ans, vous êtes en fin de contrat, je crois, en juin 2022. Oui. Comment ça se passe, vous espérez jouer encore après 2022? Est-ce que vous vous dites, tiens, par exemple, je pourrais tout à fait jouer dans un autre club? Je ne sais pas.
Bah, je ne sais pas. On verra comment je me sentirai à la fin de la saison prochaine. Il me reste un an de contrat Et moi, je me sens bien. Bon, là, je me suis luxé l'épaule, donc c'est peut-être pas le moment de dire ça, mais en tout cas, physiquement, voilà, je me sentais très bien ces derniers temps. Et j'ai bon espoir de bien récupérer de cette blessure pour attaquer la saison prochaine à 100%. Et voilà, si je me sens bien et que le plaisir est toujours là, j'espère pouvoir continuer encore un petit peu. Voilà. On en discutera avec les dirigeants du Racing en temps voulu, mais c'est sûr que je ne me vois pas encore jouer dans un autre club en France que le Racing. Voilà, on verra bien. Il me reste encore un an pour prendre cette décision, mais si tout va bien, j'espère bien continuer encore un peu.
Ouais, et puis on voit quand même que le Racing fidélise aussi ses joueurs. On a vu au Stade Toulousain, ça marche aussi, les anciens qui sont essentiels aussi pour l'histoire du club. On voit que l'ASM le fait aussi, et le Racing le fait avec notamment Nyanga, avec Sorzeski, qui n'ont pas tant d'histoire dans ce club, mais qui sont quand même, voilà, qui ont marqué l'histoire de ce club. Donc on t'imagine quand même, enfin moi je t'imagine pas quand même aller jouer ailleurs, même en Pro D2 pour une dernière saison à 36 ans. Non, je pense
Au
que ça
Stade
va rester.
français.
Ah!
Non, je sais pas, non, comme j'ai dit, je pense que je raccrocherai mes crampons au Racing après l'année de mon arrêt. Je sais pas encore, j'espère le plus tard possible.
Bon, intéressant ce que tu disais aussi dans le midi olympique, pardon, ton point de vue sur les dérives du professionnalisme, c'est voilà, ces transferts de plus en plus fréquents qui rendent quasi impossible des carrières comme la tienne dans un seul club. Donc selon toi, c'est quoi? C'est les clubs à blâmer, les joueurs, je l'ai dit, hein, 15 ans de carrière bientôt. Donc tu l'as vu évoluer ce sport. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de voilà de ton sport aussi? Parce que je pense que c'est important aussi à l'âge que tu as aussi, c'est de quand je parle de figure tutélaire, c'est aussi de voilà, des mecs de ton âge, des mecs aussi avec ton parcours aussi, qui peuvent aussi prendre la parole sur ce qui ne va pas aussi dans ce sport, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors moi, je l'ai fait, j'en ai pris plein la gueule, mais voilà, c'est aussi d'avoir l'audace aussi de dire que, bah oui, t'es écouté aujourd'hui à 32 ans, Henri Chavancy, c'est comme j'ai dit, une institution aussi au Racing et qu'il est écouté et que, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme dérive dans notre sport aussi? C'est bien de pointer du doigt aussi ce qui ne va pas. Oui, il y a les grandes valeurs, oui, c'est super, c'est un sport génial, l'amitié, mais il y a aussi des dérives. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, ben, forcément, oui, il y a des dérives et j'en ai parlé justement dans cette interview. Je pense que quand on voit le nombre de mouvements de joueurs, ben, je pense que c'est plus imputable au club qu'aux joueurs. Je pense que voilà, il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui signent des contrats à des joueurs tout en sachant que s'ils n'en sont pas satisfaits, ils les libéreront ou ils les transféreront dans un autre club, ce qui ne se voyait pas il y a 10 ans. Voilà, je crois que les joueurs, au contraire, ils ont envie de stabilité, ils ont envie aussi de jouer sur le long terme avec le même club. Alors, bien sûr, il y a pas de généralité, mais par exemple, au Racing, moi, je connais pas un jeune joueur aujourd'hui qui n'a pas envie de travailler dans la continuité avec le Racing. Donc, voilà, et on voit justement que le Racing permet à ces jeunes joueurs-là de travailler dans la continuité et de jouer en équipe première pour le club. Je crois que on est le club qui fait jouer le plus de joueurs issus de centres de formation, donc c'est une bonne chose. Il y a cette réforme des GIF qui a fait évoluer les choses aussi dans le bon sens. Je vois, enfin, je joue de plus en plus contre des Français dans les autres équipes et nous aussi. Il y a, je sais pas, peut-être 3, 4 ans, 5 ans, il y avait parfois des matchs où on était peut-être 4-5 Français sur la feuille des matchs, dans les deux clubs confondus. Donc, voilà, je crois que c'est en train d'évoluer de la bonne façon. Et aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de jeunes joueurs français, que ce soit au Racing ou ailleurs, qui démarrent tôt. Et je pense que c'est une bonne chose pour le top 14 et pour le rugby français dans son ensemble, pour l'équipe de France aussi, on le voit. Une équipe de France performante avec énormément de jeunes joueurs, mais qui ont pu s'aguerrir pendant plusieurs années en top 14. Donc, je pense que les choses évoluent de la bonne façon de ce point de vue-là. Donc, espérons que ça continue et qu'il n'y ait pas cette dérive peut-être qui est en train d'arriver de contrats qui se cassent facilement ou de transferts ou de voilà, je crois qu'on était un petit peu une exception où tous les contrats arrivaient à leur terme, mais je pense que c'était une bonne chose aussi et j'espère qu'on continuera dans cette voie-là.
L'après-carrière, tu y penses ou tu l'as anticipé? Alors, je parlais de Léonard de Vinci. Tu étais bien à Léonard de Vinci, c'est à la Défense, hein, c'est ouais. Juste à côté de là. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça,
j'habitais rue des Létus, rue des étudiants, juste derrière. Je t'ai dit, j'ai fait 4 jours. Mais oui, c'est là-bas, la fac Léonard de Vinci.
Ouais, j'ai fait 4 ans d'école de commerce. Donc, ouais, l'avenir, forcément, j'y pense. Je me pose des questions de qu'est-ce que j'aimerais faire après le rugby. Je n'ai pas forcément de réponse aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. Je ne sais pas du tout. Est-ce que j'aurais envie de continuer dans ce milieu-là, que ce soit au Racing ou ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que je voudrais, au contraire, complètement changer de voie, découvrir un autre domaine, d'autres horizons, peut-être aussi. Donc, comme je ne sais pas, je ne me prends pas vraiment la tête avec ça et je verrai le jour venu si j'ai des opportunités et si j'en ai pas, bah, j'essaierai d'en trouver, ni plus ni moins.
Je pense que tu ne vas pas galérer à en trouver, à mon avis. Mais qu'est-ce que tu retiens de ta première année avec les pros? Je l'ai dit, c'était en 2007, parce que c'était une année bien spéciale quand même pour beaucoup aussi d'entre nous. Alors j'en ai cité quelques-uns, les Thomas Lombario, tu avais Jeff Dubois, tu avais Johnny Govou, tu avais Laurent Sampere, Franck Tournaire, Jonathan Wieski, Cyril Ibobo, et ceux que j'ai cités, oui. Ça a dû te marquer cette année quand même-là. Et même si ça finit pas champion, ça montrait quand même voilà, l'ambition de Jackie de s'installer rapidement tout en haut. Donc, ce casting cette année-là, moi je me souviens, c'était le 6 août, on était dans les grands locaux de Foncia, avec cette réunion, Berbizier justement qui nous expliquait le RCF, tu vois, le côté gauche, milieu et droit. Ben oui, mais un peu ton papa spirituel aussi, c'est lui qui t'a permis de jouer. C'était une année quand même bien particulière aussi de pouvoir jouer avec ces mecs-là. Ne me cite pas parce que je n'ai pas joué. Je faisais plus de boxe et de crossfit que de cross-training qu'autre chose. Mais ça devait être particulier quand même pour toi de voir tous ces mecs débarquer. Ouais,
bien sûr. Bah, je pense qu'il y a eu un renouvellement d'effectifs à 90% cette année-là. Je pense que je n'ai jamais vu, ça ne se reverra peut-être jamais. Je crois qu'il y a peut-être 4 ou 5 joueurs de l'année précédente qui étaient toujours là. Donc, ouais, ça a été un chamboulement énorme. Et puis, moi, 18 ans... Qui arrive du centre de formation, voir tous ces grands noms au Racing, forcément, c'était très impressionnant et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir les côtoyer. Donc, vous côtoyez, je ne te cite pas, alors, mais je t'invite dedans parce que c'est vrai que même la façon de travailler, la rigueur, ça a été une chance extraordinaire. Tu as cité Pierre Berbizier. Voilà, je remercierai jamais assez Pierre Berbizier pour tout ce qu'il m'a apporté en tant que jeune joueur. Ça a été une chance inouïe de pouvoir le côtoyer et de pouvoir côtoyer tous ces grands noms du rugby qui avaient une carrière incroyable et qui étaient venus là dans un seul but, c'est de faire remonter le club et de lui apporter toute leur qualité et tout, voilà, tout ce qu'il pouvait leur donner. Donc, voilà, moi, j'étais au milieu de tout ça et j'ai été extrêmement bien intégré. Tout le monde a été extrêmement bienveillant avec moi et ça je ne l'oublie pas. Donc, forcément, j'essaye aussi, maintenant que c'est moi à l'ancien, d'épauler les jeunes du mieux que je peux et d'essayer de les aider du mieux possible.
Si tu avais une dernière question avant de conclure, si tu avais un souvenir à retenir de ces 14 dernières années, est-ce que tu retiendrais le Camp Nou? Est-ce que tu retiendrais donc ce titre de 2016 ou le titre Tadei aussi en 2005? Parce qu'on sait que avant que l'enjeu ne dépasse le jeu, il y a quand même ces grands moments aussi de jeunesse aussi, parce que vous aviez une belle génération. Hein. J'ai cité les Durieux, les JB Di Martino, mais vous aviez quand même une sacrée belle génération aussi au Racing. Qu'est-ce que tu retiens en tout cas? Pas ce que tu retiens, mais l'émotion, parce qu'en plus, un match particulier. Je parlais de Sergio Parisse à 14 contre 15 qui gagne chez vous, ça c'est cadeau. Mais vous gagnez quand même ce titre au Camp Nou à 14 contre 15 aussi. Donc c'est.
Là, ouais, ça, bah, si je dois retenir, un moment, forcément, ce sera aujourd'hui, ce sera celui-là, parce que c'était un moment tellement extraordinaire. Le contexte déjà au Camp Nou, devant 100 000 personnes. Le match qui commence très mal, on est rapidement mené, on est à 14 contre 15 et puis je sais pas, on sentait qu'on pouvait le faire, on était persuadé qu'on allait le faire même, et petit à petit on retourne le match et puis on arrive à le gagner. Donc c'est forcément un moment tellement extraordinaire que si je dois en retenir un, ce sera celui-là. Comme je dis, moi, quand j'étais dans les catégories jeunes au Racing, je ne pouvais même pas en rêver parce que c'était inatteignable presque comme objectif. Et voilà, avoir pu toucher ce bouclier de Brennus avec ce maillot, ça restera forcément un moment extraordinaire pour moi.
Allez, deux dernières questions. Celle de Laurent Travers, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi une personne importante dans ta carrière. Laurent Labitte est parti en équipe de France, mais Lolo Travers est toujours là. Voilà. Alors, tu as parlé du patriarche, mais il a aussi un petit peu ce rôle peut-être tampon entre Jackie et vous. Comment tu définirais aussi ce personnage en couleur qui a été aussi champion de France, notamment avec Montauban, avec Castres et maintenant avec le Racing. Comment il est le Lolo Travers?
Toto. Non, Toto. Ben, Toto, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps aussi, qui a amené sa rigueur, ses compétences, et c'est quelqu'un qui a pris aussi un autre rôle depuis que Lolo est parti, qui chapeaute un peu plus, je dirais, l'ensemble de l'effectif. Avant, il était cantonné un petit peu aux avants, et aujourd'hui, c'est vraiment le manager général de toute l'équipe. Donc, forcément, moi, j'avais une relation très particulière avec lui en tant que, enfin, j'ai une relation très particulière avec lui en tant que capitaine. On échange beaucoup. J'aime beaucoup la relation que j'ai avec lui, qui est faite de transparence, de confiance, et on fait tout tous les deux à chaque fois pour que l'équipe soit la plus performante possible. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour Toto, et j'ai beaucoup de plaisir aussi à être un de ses joueurs et à travailler sous ses ordres. Donc voilà, j'espère qu'il restera encore au club le plus longtemps possible, parce qu'il a beaucoup apporté justement au Racing avec Lolo d'abord, et puis il continue à le faire.
Et un dernier message pour les jeunes qui rêvent de faire carrière. Alors, on le dit toujours, hein, l'importance du double projet, bien sûr, mais voilà, si tu avais un message, toi, maintenant, le néo-ancien, je pense que tu vas aller. J'ai vu dans une interview que tu voulais aller jusqu'en 2027, d'ailleurs, tu as fait un joli appel du pied à Jackie, qui était juste à ta gauche. C'était pour d'ailleurs le Natixis, je pense, d'ailleurs, et j'ai vu cette interview, tu attendais. Mais voilà, si tu avais un mot à dire pour conclure pour la jeunesse.
Je leur dirais de rêver, de croire en leurs rêves, et de jamais oublier que le rugby, c'est un jeu, c'est quelque chose qui doit leur procurer du plaisir, c'est le plus important. Et tant qu'ils auront ce plaisir à aller s'entraîner, à aller rejoindre leurs copains, à aller gagner des matchs, ils en perdront aussi beaucoup. Mais voilà, tant qu'ils seront tristes de perdre, tant qu'ils sont heureux de gagner, tant qu'ils seront content de se retrouver entre copains, entre amis pour aller défendre un maillot, c'est le principal. Il faut qu'il continue, parce que c'est un sport extraordinaire qui permet de faire des rencontres géniales et qui procure des émotions qu'on ne peut pas vraiment avoir ailleurs, je pense. Donc voilà, qui persévère, qui quel que soit le niveau dans lequel ils évoluent, qui se donne à fond et qui profite de ce moment, parce qu'un jour ça s'arrête maintenant.
Oui, puis c'est pas parce que tu es blessé que ça va s'arrêter. Alors, on va te souhaiter très très bon rétablissement, une bonne fin de saison. Et puis, comme on le dit aussi à tous ceux et celles qu'on reçoit aussi, de retrouver un jour le public aussi dans votre aréna, parce que je pense que ça manque quand même à tous et à toutes. Henri, on va te souhaiter une bonne fin de saison, j'allais dire le rétablissement le plus rapide. Fais gaffe, parce que moi je suis revenu trop tôt de l'épaule gauche, l'épaule droite a pété. Donc, freine, voilà, tranquille, 32 piges, voilà, les pieds dans la glace, la bonne récupération, et puis on va vous souhaiter, vous le Racing, une bonne fin de saison quand même, en espérant que ce titre puisse clôturer une année bien bizarre quand même, on le sait, pour le rugby, un retour du public, et voilà. Et Olivier, merci beaucoup.
C'était un plaisir, Raph, merci surtout à Henri, qui a été évidemment, comme on s'y attendait, un invité de grande qualité.
C'est gentil, merci beaucoup à vous deux, c'est très sympa, passez un bon moment à vous.
C'est top. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et je vais vous souhaiter un très bon week-end rugby. Et comme je le dis à chaque fois, et niveau GSM, regardez par la fenêtre. La vie est belle. Henri, à très très bientôt. Bonne récupération, bon rétablissement. Et vive le rugby. Hein. Et vive le Stade français quand même, non? Pour conclure.
Ah, tu m'en demandes beaucoup. Mais je respecte le Stade français. J'aime beaucoup jouer contre eux, parce que je gagne souvent.
Allez. Allez, je te laisse le dernier mot, c'est cadeau. Salut Henri, à très bientôt.
À bientôt, Raph. Merci beaucoup. Salut Olivier.